France Culture.
Pourquoi quelqu'un désirait-il tailler le pied d'une femme noire dans le pied d'une table? Comment quelqu'un trouverait-il du plaisir à s'asseoir sur une chaise dont les pieds, au lieu de formes simples et élégantes de bois poli, ornées de dahlias ou de pivoines, disons, auraient été sculptés pour former quatre femmes noires en miniature, leurs mains étendues loin au-dessus de leur tête. Quatre pieds de chaise en forme de femmes noires en miniature pour tenir la personne qui s'assoit. Ça fait quoi comme sensation de mettre son derrière sur un siège tenu par huit mains de femmes noires en bois?
Bonjour le Book Club, bonjour Robin Kraft-Lewis. J'ai lu votre livre Odyssée de la Vénus Noire et je dois dire que j'étais surprise. J'ai découvert ce texte lors d'une interview d'Alice Diop il y a environ 2 ans et j'avais été frappée par sa puissance.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Le langage peut tout devenir aujourd'hui dans le Book Club. Il peut tout faire advenir, recommencer la vie, le monde, recommencer le regard et le renverser. Il y a 10 ans, après avoir enseigné, créé, lu, publié des articles, Robin Kraft-Lewis fait paraître aux États-Unis The Voyage of Sable Venus and Other Poems. Elle a alors 50 ans et le livre se trouve récompensé du très prestigieux National Book Awards for Poetry. C'est la première fois pour un premier recueil de poésie d'une autrice afro-américaine. Le choc littéraire et de pensée que couronne alors l'institution américaine, nous en recevons les ondes en France, comme souvent, 10 ans après, grâce à la traduction du livre et à sa lecture en scène par Alice Diop. Via un tissage d'érudition et d'onirisme, l'Odyssée de la Vénus Noire partage un fascinant voyage dans notre inconscient visuel, transformant un constat d'absence ou d'avilissement du corps des femmes noires en calme puissance de pensée. Robin Kraft-Lewis signe une véritable révolution poétique. Elle est notre invitée. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Bienvenue à toutes et à tous dans votre Book Club. Bonjour Robin Kraft-Lewis.
Merci, bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Bienvenue à vous dans le Book Club de France Culture. Vous êtes de passage en France à l'occasion, entre autres choses, de la lecture performance que propose la cinéaste Alice Diop à la MC 93 de Bobigny jusqu'au 30 novembre prochain. Alice Diop, à qui vous consacrez ou adressez les derniers mots de l'épilogue de votre livre dans sa traduction française, vous dites que nos conversations ne prennent jamais fin. Alors on va continuer ça. Le recueil Odyssée de la Vénus Noire et autres poèmes apparu, je l'ai dit, aux éditions Gallimard, dans une traduction de Céline Leroy et Nicolas Elliott. Il est augmenté d'un texte inédit où vous revenez sur votre propre parcours et d'un texte qu'Elias Sambar consacre à votre recueil. Voici pour toutes les informations, je rajoute que cette lecture performance donnée à MC 93 se fait notamment avec l'accompagnement de Thierry Thieu-Niang. Et bonjour à vous, Marguerite Capelle, qui chuchote dans l'oreille de Robin Kraft-Lewis. Merci à vous d'interpréter les propos de Kraft-Lewis vers le français. Ici, on fait connaissance avec nos invités en parlant d'abord de leur rapport à la lecture. Vous remerciez dans votre texte, Robin Kraft-Lewis, les bibliothécaires noirs partout dans le monde. Vous remerciez aussi vos parents qui ont commis, je cite, cet acte profondément progressiste d'avoir pris au sérieux le développement intellectuel d'une petite fille noire. Par ailleurs, votre livre est en permanence traversé de vos lectures et la lecture y est presque comme un équivalent de l'art tout entier, mais aussi de l'amour, mais aussi de la tendresse. Alors revenons peut-être à l'idée du développement intellectuel d'une petite fille noire. Quelle est la place que la lecture et les livres ont occupé dans ce parcours-là?
Merci beaucoup. This is a beautiful question.
C'est une question magnifique.
I don't think I've ever been asked this question.
Je crois qu'on ne me l'avait jamais posée depuis 10 ans que j'ai fait des interviews sur ce livre.
My parents were avid
Mes parents lisaient les journaux avec avidité. Il y avait toujours des journaux partout dans notre maison. Mais en particulier le soir, moi je suis la plus jeune. Et quand je suis née, je dormais dans leur chambre. Et tous les deux, ils avaient chacun leur journal. Et moi, je dormais entre les deux.
Et ma mère
dit que j'essayais de les lire, mais ils étaient à l'envers. Et quand j'avais 3 ans, je prétendais lire le journal. Mais en dehors de cette pratique assidue de la lecture par mes parents, On a aussi grandi, on n'était pas du tout riches, hein. On n'était même pas de la classe moyenne, on était vraiment de classe populaire. Mon père était gardien d'immeuble et à l'époque c'était possible pour la femme d'un gardien de rester à la maison et d'avoir des enfants. Aujourd'hui c'est plus possible. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les livres que je voulais, ils allaient me les trouver. À chaque fois que je voulais un livre, ils me le procuraient. Et quand j'ai eu 6 ans, je lisais vraiment un livre par jour. Donc c'était une habitude qui coûtait cher. Ils n'ont jamais refusé de m'acheter un livre. Et puis après, j'ai découvert les bibliothèques et j'y ai consacré toute ma vie. Mais vous avez parlé de l'équivalence entre la lecture, l'amour, l'art. Ma mère me lisait aussi tout le temps. Et mon père aussi. Mon père, ce qui l'intéressait surtout, et je crois que c'est de là aussi que me vient mon intérêt pour la littérature francophone, la littérature créole, mon père, il parlait le créole. Donc, il était toujours en train de chanter des chansons de Louisiane, que ce soit en anglais, par exemple, pour les airs de blues. Il est né en 23, donc il se souvenait vraiment de la naissance du jazz de Storyville, s'il l'avait fréquenté adolescent, ce berceau du jazz. Et puis il avait plein de petites ritournelles, petites comptines, des petites chansons, des ritournelles. C'était des chansons en créole que je ne comprenais pas du tout. Mais la mélodie, les paroles me sont restées dans l'oreille. Et ça fait aussi partie des raisons qui ont marqué mon enfance dans une culture francophone qui est aussi en fait un État américain. Et c'est ce livre, la traduction de ce livre en français, qui a ouvert des portes vraiment dans mon esprit, que j'avais ressenti quelque chose des réalités que j'avais éprouvées, ces croisements des langues, de l'art, de la culture, de l'histoire, de la politique, du colonialisme, de la lutte contre le colonialisme, de la migration, tout ça, ce carrefour-là avait toujours été en moi. Mais c'est quand j'ai eu cette invitation fantastique de la part de Margot Gallimard de faire cette version en français que j'ai commencé vraiment à sentir, à réfléchir et à dire des choses que je n'avais encore jamais su exprimer. Donc votre question, elle est vraiment très chargée pour moi. Elle porte énormément de choses.
Je la pose aussi parce qu'on va parler de la dimension extrêmement théorique, intellectuelle, si précise de votre travail. Vous êtes une chercheuse, Robin Coste-Lewis. Il y a une assise, et on le sent très bien, la puissance esthétique et poétique de votre travail n'efface en rien le sérieux de votre pensée. Mais il y a comme un retournement à la fin de votre texte qui, moi, à chaque fois me saisit et qui va vers la tendresse. Et la dernière phrase, c'est quand même « Assieds-toi et lis pour moi ». Et c'est pour ça que je voudrais qu'on revienne un tout petit instant sur l'équivalence de ce que vous faites entre lire pour soi, lire pour les autres, et lire et écrire parce que la vie est solitaire et que c'est une manière d'être ensemble, Robin Coste-Lewis.
Beautiful. Beautiful question.
C'est une très belle question. Je ne fais pas de distinction entre mon travail de recherche pour la poésie et les recherches que je peux mener pour écrire un essai. Je suis très heureuse d'avoir trouvé la poésie, d'avoir commencé à écrire. Je pourrais abandonner ma carrière académique, écrire pour l'université. Avant, j'étais vraiment une théoricienne avant toute chose. Et j'adore ça, la théorie et la recherche historique, bien sûr, j'adore. Mais bon, on sera tous d'accord, je pense que ça peut être un peu excessif aussi, la culture académique. La langue ne paraît peut-être pas si ouverte et aussi tendre que d'autres formes de lexique. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour dans le monde universitaire. J'y travaille actuellement et c'est très excitant aussi. Mais je crois profondément que la poésie, c'est aussi un acte intellectuel. C'est une des formes d'art humain les plus anciennes. Ça remonte encore avant l'art rupestre, l'art des cavernes. On a toujours chanté les uns pour les autres, de la même façon que ma mère chantait pour moi quand j'étais petite. On chantait les premières poésies, par exemple, d'un autre poète canadien exceptionnel, Dionne Brown, qui a été également publié par Margot Gallimard. Dionne Brown, elle parle des poèmes comme les premières cartes, la première cartographie de l'humanité. On chantait des chansons pour expliquer comment se rendre quelque part. Et pour moi, la poésie, c'est aussi de la recherche. Et pour revenir à la première question sur mes parents, ils ont pris justement mon intellect au sérieux, mais ce n'était pas un cas unique, en tout cas pas là où j'ai grandi. Tout le monde prenait l'intellect de leurs enfants au sérieux, le développement intellectuel de leurs enfants au sérieux, là où j'ai grandi. En particulier parce que l'éducation pour les personnes non blanches, j'ai presque envie de parler en français, les personnes non blanches aux États-Unis, l'éducation, c'est la façon de s'en sortir. D'échapper à l'apartheid de la suprématie blanche américaine. Donc moi j'ai lu avant même d'arriver à l'école, j'ai aujourd'hui 3 diplômes universitaires et il y a peu de moments où on peut remettre en cause mon autorité intellectuelle, mais je sais que ça a l'air arrogant, mais c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le racisme aux États-Unis est extrêmement intelligent, donc il est prêt à tout pour s'assurer que les personnes opprimées ne puissent pas participer dans la discussion sur leur propre décolonisation. Mais quand ces personnes commencent à lire et à comprendre l'histoire, il n'y a plus rien à dire, parce que tout est là. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, en utilisant des titres, et que j'ai écrit ce poème avec ces titres d'œuvres d'art, parce qu'il n'y a pas besoin de chercher bien loin, en fait. Ça a toujours été sous notre nez. Il suffit d'observer nos pays aujourd'hui, et en fait, c'était là sous notre nez et on a décidé collectivement peut-être de prendre une espèce de cocktail qui nous fait oublier qu'on connaît notre histoire ou qui nous fait oublier qu'on sait à quoi ressemble le fascisme. Et à la place, on se contente de je ne sais pas quoi aller sur la Lune pour s'amuser en fusée. Je travaille sur un opéra en ce moment avec Paola Prestini, qui est une grande compositrice. Et l'un des personnages s'appelle Ésope, cet ancien esclave qui a écrit ces fables dans l'Antiquité. Elles sont incroyables. Et les fables d'Ésope sont une véritable cartographie de la rébellion. C'est toujours la souris qui vainc le lion, qui l'emporte sur le lion. Et c'est ça la poésie pour moi. La condensation est plus rigoureuse, en fait, que dans une forme d'essai académique.
D'ailleurs, on viendra à la composition à la fois rigoureuse, complexe et étincelante de ce recueil qui est traduit en français, Robin Cost-Lewis. Mais il y a un moment donné où vous revenez sur votre famille et vous remontez relativement loin et vous parlez de l'histoire de l'esclavage en rappelant, s'il le faut, qu'il était strictement interdit aux esclaves, femmes, quel que soit leur âge, de pouvoir écrire, détenir un stylo, noter quelques mots, composer des poèmes et évidemment écrire leur histoire. On peut se référer à Percival Everett qui était aussi traduit en français à la fin du mois d'août. Je pense à un vers d'un poème dans la première partie de votre livre où vous parlez de votre père et vous lui dites « Tu m'as donné le monde, une noix piquante et fraîche, âcre et faussement timide, tu l'as cassée pour en extraire toute l'intelligence et la laisser tomber dans ta main, cette profonde joie noire. » Et moi, je cherche, depuis 2 ans que j'ai découvert votre texte grâce à Alice Diop, les raisons multiples qui font qu'il me bouleverse à chaque fois. Et l'une des raisons, je crois, j'ai trouvé ce matin, c'est que je suis obligée de revenir au début d'un monde pour moi. C'est comme si j'étais obligée de redevenir une enfant, parce que vous proposez tellement de recommencer le monde que je suis obligée de revenir à un certain début. Et je voudrais que juste on puisse, je ne sais pas, comparer le geste que vous faites poétiquement avec le geste de votre père qui est « je casse une noix et je te le donne ».
I'm very moved.
Je suis très émue.
I just want to say that Percival Everett's a dear friend of mine.
So to think juste dire aussi que Percival Everett est un ami très cher, donc savoir qu'il est venu dans votre studio, ça me réchauffe le cœur. On enseigne aussi ensemble en Californie. Ce vers dont vous parlez dans le poème parle de la mort de mon père.
And again, you know, one of the beautiful things
encore
about
une fois,
poetry,
ce qu'il y a de magnifique dans la
poésie,
dans ce grand pays de psychanalyse,
you open your psyche. That's the difference.
C'est que c'est une manière d'ouvrir sa psyché. C'est la différence entre la poésie et le travail universitaire.
Is the highest material from which you can draw the
c'est
greatest
ça,
archive.
Le matériau ultime et l'archive suprême. C'est vraiment notre esprit. Et donc, quand j'ai commencé à écrire ce poème sur la mort de mon père, ce vers, ces quelques mots,
right?
Cette idée d'être allé chercher l'intelligence du monde, c'est très important pour moi parce qu'encore une fois, mon père faisait un travail très simple, mais c'était aussi un grand mathématicien frustré. Il n'a pas pu aller à l'université parce que ses parents n'avaient pas les moyens de payer son éducation pour plusieurs personnes et ils ont payé l'éducation de son oncle qui est devenu médecin. Mon père, comme mon oncle, sont venus ici comme soldats en France à un moment. Ils ont servi dans l'armée. Et j'en parle dans le livre. Et il m'a raconté toutes sortes d'anecdotes. Il y a énormément d'anecdotes qu'il m'a racontées. Je parle, par exemple, de sa première rencontre avec une prostituée quand il était ado. Il n'y a rien qu'il ne m'ait pas raconté. Il essayait de m'enseigner des choses sur le monde. Et il le faisait de façon très joviale et joyeuse. J'ai appris énormément de choses sur le vaste monde de mon père. Et ce qui est triste, c'est que beaucoup d'autres personnes auraient pu apprendre de lui, mais n'ont jamais pris la peine de parler à un gardien d'immeuble noir. Il m'a appris le nombre pi bien avant que je connaisse l'alphabet, avant même que je sois en maternelle. Et j'ai oublié la deuxième partie de votre question parce que je me suis laissée embarquer.
Allons vers une autre. Peut-être revenons à ce remerciement des bibliothécaires noirs, Robin Cost-Lewis, parce que ça désigne un lieu tout particulier qui est la bibliothèque. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans votre parcours depuis l'enfance? Donc là, on est dans un endroit intime, on a parlé de vos parents, mais il y a aussi tout ce qui se passe après avec les autres relais, les relais vers les autres livres. C'est beau de les remercier, ces bibliothécaires, ça veut dire quoi pour vous?
Merci beaucoup pour cette question too.
Merci encore pour cette question, c'est très important.
You mentioned about the prohibitive
laws against African Americans. Vous avez parlé de la prohibition des lois qui empêchaient les Noirs américains d'écrire. Dans les archives historiques, il y a énormément d'exemples de personnes asservies à qui on a coupé la main ou la langue pour avoir tenu un stylo, pour avoir lu, on leur arrachait les yeux. Le grand Frederick Douglass raconte qu'adolescent à Baltimore, sur les chantiers navaux, il échangeait du pain contre des mots avec des enfants blancs. Si vous m'apprenez à lire ce mot, je vous donnerai un bout de mon morceau de pain. La langue, c'est tellement plus important pour moi. Avoir accès à la langue. Et j'ai vraiment une avidité, un appétit féroce pour les mots. Vous savez que j'ai fait des études de sanskrit à Harvard. J'ai essayé d'aller vraiment au cœur de l'architecture de la langue. Et aussi par une espèce d'amour bizarre qu'ont souvent les écrivains, sans doute, mais aussi parce que si on peut aller à la source de toutes les langues, pour moi, ça signifiait, ça m'appelait, ça exigeait que ça devienne mon paysage, à moi aussi, après toutes ces années de torture pendant l'ère coloniale qu'avaient subi mes ancêtres. Les bibliothécaires sont les gardiennes de tout ça. Les gardiens et les libraires noirs, il y a toute une histoire. D'abord, je voudrais saluer la France, je suis vraiment très contente d'être là. Vraiment. J'ai eu envie de parler de ça et de parler en français, de parler de cette histoire-là depuis longtemps parce que ma famille vient de Louisiane. Je crois que depuis toute petite, c'est quelque chose auquel j'aspire et c'est pour ça que je suis tellement émue parce que ça a énormément de sens pour moi d'être ici. Mais l'histoire de ces bibliothécaires noirs, c'est quelque chose dont on n'a pas du tout encore parlé. Il y a peu de recherches. Il y a quelques recherches remarquables, il n'y en a pas beaucoup. Nous autoriser à aller à l'école, ça a pris un siècle. Ensuite, à faire des études universitaires, ça a pris encore 50 ans de plus. La femme de Percival Everett, c'est Danzi Senna, qui est une romancière magnifique. Et elle a écrit quelque chose de fantastique à la fin de son premier roman qui s'appelle Caucasia. Et il y a ce personnage noir, plus âgé, qui est enseignant à Harvard et qui dit « Imaginez avoir passé toute votre vie à essayer de corriger une erreur vieille de 400 ans. » C'est ça l'histoire des intellectuels noirs aux États-Unis comme dans le monde francophone. Et c'est aussi l'histoire des bibliothèques noires, d'essayer de renverser la terreur et de la prendre de vitesse pour archiver tous ces matériaux. Et ça demande un imaginaire incroyable. Parce que si vous grandissez dans une culture qui pense que les noms de vos ancêtres n'étaient même pas suffisamment importants pour être archivés quelque part, pour être enregistrés, soyez sûr que les archives sur l'esclavage vont être complètement déconsidérées ou éliminées. C'est pour ça que les bibliothécaires noirs, depuis des siècles, justement, font ce travail de récupération de ces archives effacées, récupérer les documents les plus importants. En France, il y a des documents sur la Louisiane, par exemple, dont je me sers. Personne ne s'y intéresse, à part les bibliothécaires, les archivistes et les historiens noirs.
On va parler de votre livre « Odyssée de la Vénus noire » et autres poèmes désormais traduits en français pour les éditions Gallimard, juste après ça.
I'm just a tree in the middle of a forest. I'm not asleep. I'm just resting my soul. I'm just a tree with my eyes in the middle of a forest. I'm not asleep. I'm just resting my soul. Our roots run deep underground. Our roots run deep underground. Our roots run deep underground. Our roots run deep under. Our roots run deep underground. Our roots run deep underground. Our roots run deep.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un jour, tu tournes la page d'un livre et tout y est. Un jour, vous tournez la page d'un livre, Robin Cost-Lewis, et tout y est. Après avoir frénétiquement cherché le moindre morceau de femme noire dans l'histoire des représentations des œuvres d'art ou des objets, la Vénus noire vous apparaît soudain et vous propose d'embarquer avec elle dans un voyage qui ne laissera personne inchangé. La puissance de transformation du langage, prenant le relais ou avançant avec la puissance de transformation du regard, font que l'on assiste à une véritable recomposition du monde et de votre autobiographie aussi. Une autobiographie sans jeu, une autobiographie où le jeu n'est pas important, où il n'est pas le protagoniste. D'ailleurs, vous écrivez encore « La plupart du temps, je ne sais pas qui je suis ». Votre recueil publié aux États-Unis il y a 10 ans et traduit pour le compte des éditions Gallimard aujourd'hui en français par Céline Leroy et Nicolas Elliott est titré « Odyssée de la Vénus Noire et autres poèmes ». Il est lu en ce moment par Alice Diop sur la scène de la MC 93 à Bobigny. On continue d'en parler avec vous. Je disais tout à l'heure que votre livre est peut-être finalement chacun des vers ou chacun des poèmes ou chacun des moments de prose plus narrative est composé d'une manière précise, Robin Cost-Lewis. Est-ce que vous voulez bien peut-être revenir sur la structure de ce recueil et dire en quoi est-ce que cette structure, ce montage, je sais pas, ce bricolage-là est en lui-même déjà un projet de recomposition?
Oui. Merci. I want to just talk quickly about the I is not the protagonist.
Je voulais d'abord réagir à cette idée que le je n'est pas le protagoniste.
Just quickly, I think that the protagonist is history.
Je pense que le protagoniste, c'est l'histoire, et l'histoire est une confession, en fait. L'histoire confesse ses secrets les plus sombres. Et donc, insérer dedans mon je individuel et personnel, ça empêcherait cet aveu d'être exprimé, cette confession. Et quand j'écrivais, je ne cessais justement de me demander s'il fallait que je m'insère moi-même dans ce long poème. Et à chaque fois que je pensais à le faire, j'avais le sentiment que ce n'était pas du tout nécessaire parce que le texte faisait ce que j'aurais été incapable de faire moi-même, ce qui était de dire la vérité sur lui-même. Je ne sais pas si vous avez expliqué aux auditeurs qu'il y a ce poème qui est composé de titres et de titres d'œuvres d'art. Je ne l'ai pas entendu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois que je me disais « Oh, j'aimerais écrire quelque chose là-dessus », je découvrais un titre ou un cartel qui était vraiment tout à fait affreux, tout en traduisant la névrose coloniale de l'époque et le regard sur les humains et sur les femmes noires en particulier. Et parfois, j'éclatais de rire en pleine nuit en pensant à ces titres que je voyais. Quand vous m'interrogez sur la composition, en fait, j'ai collectionner ces titres d'œuvres d'art pendant 10 ans. Je ne sais pas à quel moment j'ai commencé vraiment. Je me souviens en tout cas d'avoir vu cette gravure qui apparaît dans le livre, qui est donc ce voyage de la Vénus noire, qui est une gravure du 18e. C'est une image terrifiante. Elle a l'air très belle, mais en réalité, c'est évidemment une image qui défend l'idée de l'esclavage. Et il y a un poème qui a été publié avec, qui est un poème affreux. Je ne me souviens pas du nom du poète, et c'est un poème du même titre et qui fait la promotion du viol et qui dit « Peu importe que le corps que vous violez soit un corps noir ». Évidemment, à l'époque, les noirs étaient considérés comme des animaux. Donc, et le poème dit « C'est la même chose que de violer une blanche si vous n'avez pas de lampe, si vous n'avez pas de quoi vous éclairer ». Donc la banalisation de toutes ces violences, elle est dans cette image, elle est dans ce poème. Et ça m'a vraiment frappée. Et j'ai toujours pensé qu'un jour j'écrirais un poème là-dessus. Et puis quand j'ai réfléchi à cette odyssée de la Vénus noire, à ce voyage de la gravure, je crois que ça disait absolument tout. C'est l'histoire du monde qui est incarnée dans ce titre. Bien sûr, je crois en la théorie de l'évolution. Je suis fascinée par ça. Et quand on pense à la migration des humains depuis le continent africain, en fait, on parle de l'histoire de l'humanité. Et donc, continuer à ignorer la diaspora noire et l'Afrique en général, ce qui est le cas partout, hein, hormis dans une version fétichiste quand on parle de jazz ou de quelques mannequins ou de certaines formes culturelles, c'est une forme d'ignorance, mais c'est une façon d'effacer cette histoire comme une humaine. C'était très important pour moi et il y avait tellement d'œuvres. Ça n'avait pas de fin, cette collection. Et c'était, on ne pouvait pas venir à bout de ces projections ridicules et haineuses sur les personnes noires en particulier, mais tout particulièrement les femmes noires dans l'histoire de l'art occidental. On est toujours là, asservis, en train de saigner, assis sur les genoux de quelqu'un, toujours en train d'être donné, sacrifié. Dans votre tradition de peinture française aussi, il y a des femmes noires qui sont représentées dans des postures d'assujettissement depuis des siècles. Et donc ça m'a semblé assez simple, et puis j'ai collectionné ces titres pendant 10 ans, c'était presque comme un travail de sculpture. Récemment, je suis allée au musée et j'avais l'impression d'avoir des morceaux, d'avoir une espèce d'accumulation de pages, peut-être 300 pages, 400 pages de titres, et comme j'ai étudié les langues anciennes, j'avais aussi ça. C'est presque comme si je m'étais servi de tout ça et j'ai compris enfin ce que ça faisait de sculpter quelque chose,
oui,
parce que je voyais le poème dans ma tête.
Il faut revenir sur ce que vous faites de cette matière récoltée, Robin Cost-Lewis. Vous vous décrivez d'ailleurs à plusieurs reprises comme une voleuse. Vous allez voler des titres, voler les cartels, voler tous les endroits où vous trouvez ces corps de femmes noires morcelées en marge, en périphérie, mais surtout violentée, et vous recomposez. Et c'est peut-être ça le geste poétique dont il faut qu'on parle maintenant, c'est-à-dire que vous ne faites pas que la liste des endroits où se trouvent ces corps morcelés de femmes noires. À partir de ça, vous sculptez autre chose. Un recommencement du regard, du monde, une nouvelle direction, un nouveau monde.
Sorry for being so verbose.
Désolée de parler.
Vous êtes là pour
je vais revenir à votre question.
Yeah, I mean that was the part where art enters the room and sits down.
C'est à ce moment-là que l'art entre dans la pièce, s'assoit à la table et vous demande de le prendre au sérieux.
I mean, at first it was like hundreds of thousands of titles.
D'abord, donc j'avais ces centaines de milliers de titres, et donc il s'agissait de les tisser ensemble pour faire ce long poème épique sur l'histoire. La règle que je me suis donnée, c'est qu'il fallait, je ne pouvais pas les couper. Et ensuite, c'est devenu assez dingue, mais dans le bon sens du terme. C'était absurde d'utiliser ce type d'esthétique. Juste prendre les titres en entier et faire ce poème de 79 pages qui soit un miroir de l'histoire. Et parce que j'ai décidé que je ne pouvais pas les couper, je ne pouvais pas les abréger, je devais les prendre en entier, il fallait les représenter en entier. Et c'est là où une forme de surréalisme au sens ancien et contemporain a jailli de la page. Parce que l'histoire, d'un seul coup, se mettait à confesse. On voyait toutes ces négresse avec une horloge dans l'œil, par exemple. Il suffit de lui tirer l'oreille et vous avez l'heure dans l'œil gauche et les minutes dans l'œil droit. Je n'aurais pas pu écrire un vers comme ça parce que moi, je ne suis pas aussi tordue. Je ne suis pas assez tordue pour créer une pendule en forme de femme. Et il y avait d'autres choses encore beaucoup plus chargées en haine. Petite fille nègre sans bras, avec une cage sur la bouche dans muselée. Qui peut imaginer des choses pareilles? Mais c'est dans les titres de ces œuvres d'art. Je n'ai pas tout utilisé, pas de façon chronologique. Il y en a sur la fin du livre qui parlent du post-postmoderne, mais qui en fait sont des cartels qui font référence à des œuvres anciennes et inversement. Mais je voulais qu'il y ait une forme d'écho par rapport aux différentes périodes dans ces titres, et puis je ne sais pas. En fait, quand j'ai commencé, c'est devenu un plaisir immense. C'était vraiment extrêmement amusant. Sharon Olds a été mon professeur, ma professeure, une grande poétesse aussi. Elle m'a appelée, elle lisait les poèmes au fur et à mesure que je les écrivais. Et elle m'a demandé, ça va, Robin? Et moi, je riais. Je ne pouvais plus m'arrêter de rire. Je lui réponds, moi, ça va. La question, c'est, est-ce que toi, ça va? Parce que c'est ton histoire. C'est l'histoire du projet artistique occidental tout entier, d'utiliser les corps noirs comme accessoires pour montrer que les corps blancs sont plus blancs, donc on met une peau très sombre à côté d'une femme blanche pour rendre justement son teint translucent et lumineux. Et tout est là. Et pour moi, c'est une évidence.
I know that we all see these images when we go to the museum.
Je sais qu'on les voit, ces images, on les voit à chaque fois qu'on va au musée. On voit tous ces femmes noires qui se cachent derrière les colonnes avec un demi-corps en train de plier le linge. Et on a simplement décidé de détourner le regard pendant
and
des siècles.
This book, I think, because it uses the titles of
je pense
the art
que parce que ce livre utilise les titres, les noms des œuvres d'art, dont je fais un collage,
really
couvre vraiment 3800 ans d'histoire de l'art. Et bien, du coup, c'est pas mes mots à moi, je les ai pas inventés, donc on peut pas nier cette réalité. J'ai pas écrit tout ça, j'ai passé simplement presque 10 ans à faire le tour du monde pour les collectionner, ces titres, je les ai pas écrits.
J'aimerais qu'on entende dans la voix d'Alice Diop un passage d'un moment plus narratif. Donc on sort, Robin Cost-Lewis, de ce moment purement poétique et recomposé dans votre recueil. Et c'est un moment un peu plus narratif.
La beauté et le joli sont ennemis. Le joli, c'est un béni oui-oui habillé en travesti de style colonial se faisant passer pour une dame. Tandis que la beauté, c'est un agent double. La beauté... C'est un cri de guerre. Son premier commandement, c'est de rester bien caché. Je ne regarde plus la beauté tout droit. Je ne regarde plus là où le peintre a conduit mon œil pour que je contemple. J'incline la tête. Je tourne mon corps vers la gauche et j'essaie de découvrir son étrange existence dans la périphérie. À un moment, mes yeux se brouillent.
La voix d'Alice Diop, qui lit ce qu'on appelle l'épilogue de votre recueil « Odyssée de la Vénus noire », bon, qui est un texte qu'on peut qualifier d'autre chose qu'épilogue, je pense que c'est vraiment une odyssée qu'il faut lire, pas comme un mot de la fin, mais comme un mot du début presque. Il est question de ce mot-là, de la beauté agent double et de la possibilité de la regarder autrement dans la périphérie et peut-être en plissant les yeux, en troublant son propre regard. Vous parlez beaucoup, Robin Cost-Lewis, de la possibilité de recommencer pas seulement le monde, mais aussi recommencer le regard, comme s'il y avait un potentiel de transformation qui était très, 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 très pertinent, très efficace.
Thank you.
Merci.
And thank you to Alice as well.
Et merci à Alice aussi.
Wow. So, in English it says pretty as a yes man. I don't know how.
En anglais, on a cette expression.
Term in French.
Pretty is a yes man, qui ne se traduit like pas vraiment en français, mais qui veut dire que quand on est joli, on essaie de dire oui, de faire plaisir, on essaie toujours de se conformer au système de pouvoir dans lequel on est. Je crois que quand les femmes et les hommes, et d'ailleurs les personnes de quelque genre que ce soit, sont obsédées par l'idée de présenter quelque chose d'agréable et de joli au monde, c'est une façon aussi de nier la puissance plus profonde de nos existences. C'est une façon très facile d'accéder au pouvoir, d'être jolie. Et les femmes l'ont utilisé depuis probablement l'âge des cavernes, parce que nous n'en avons pas d'autres. Donc je ne néglige pas du tout. C'est une première étape tout à fait bonne, mais en même temps sympathique, mais ça n'a pas le même pouvoir que celui que recèle la beauté. L'autre chose qui est importante et dont je parle dans ce livre, c'est que la beauté a été le premier paysage, le premier décor du colonialisme, pas une nation soi-disant nation, pas un pays, mais la beauté en tant que telle. C'est ça qu'on a colonisé, la beauté. Et certaines personnes, après cette invasion idéologique, ont eu le droit d'être dans le camp de la beauté et d'autres non. Donc je crois que ce que j'essaye de faire, une des raisons qui m'a poussée à publier ce poème, c'est de nous faire réfléchir à la face sombre de la beauté, quelque chose qui est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus exigeant, qui n'est pas prétentieux ni superficiel, qui est le contraire du maquillage qu'on peut mettre sur nos visages. La beauté, elle doit venir de l'intérieur, elle doit venir des ovaires, elle doit venir du système lymphatique, elle doit être engagée, elle doit être vraie. C'est ça la beauté.
Vous savez, ce qui est étincelle de beauté dans votre texte, Robin Cost-Lewis, c'est la pensée. C'est-à-dire qu'on referme votre livre en se disant ben, peut-être que ce qui est beau, ce qui est secret, ce qui est dans la périphérie et qui demande à être regardé, en étant émerveillé, c'est votre puissance de pensée. Et pour en revenir à ce que fait en ce moment Alice Diop sur la scène de la MC 93 à Bobigny, c'est qu'on est face à quelqu'un qui est assis à sa table, calmement, et qui nous raconte comment elle a pensé. Mais tout, enfin, vous le disiez, avec son corps, avec son cœur, avec son amour, ses ovaires, ses blessures, sa brisure. Mais qu'est-ce que c'est que penser ? J'ai vraiment l'impression que Odyssée de la Vénus Noire, entre autres choses, c'est regarder ou écouter une femme penser.
A thousand million yeses.
Mille fois, un million de fois oui.
Before I answer your question, I
just
want to
répondre à votre question,
Margot Gallimard,
j'aimerais remercier Margot Gallimard parce que c'est lié à ce que vous dites. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir mon nom associé à Gallimard, tout court. Mais de l'avoir en dialogue avec ce qu'elle fait, Margot Gallimard, et sa collection L'Imaginaire, je ne le prononce pas en français, une collection qui vraiment se consacre au fond, hein, aux textes qui, comme ceux de Virginia Woolf, mais aussi à la littérature féministe, à la littérature queer. Cette collection et ce projet qu'elle a dans le monde littéraire, à l'échelle internationale, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement respecté. Et donc faire partie de ce projet, en dialogue avec ce projet, c'est vraiment un des plus grands honneurs que j'ai reçus dans ma vie, en particulier quand on regarde les autres écrivains qu'elle a publiés. Et je dis ça parce que ça en revient à votre première question. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir son intellect pris au sérieux, sa vie intellectuelle, en particulier quand on est une femme et quand on est une femme de couleur, dans mon cas, africaine-américaine?
You know, they said that slaves in Africa, slaves in the United States only had 3/5 of a brain.
Que les esclaves aux États-Unis n'avaient que 3/5 d'un cerveau. C'est pour ça qu'ils étaient capables de nous considérer comme des animaux plutôt que des êtres humains. Et pourtant, je ne trouve même pas les mots.
Necessary to our being.
Il n'y a rien de plus nécessaire à notre être, en tant qu'espèce, à notre existence, que notre imaginaire.
So what a mindfuck.
Donc, quelle absurdité que de dire que tous les gens du monde qui ne sont pas considérés comme beaux ou jolis n'ont pas non plus d'intellect, n'ont pas d'imaginaire. Et si vous rêvez, vos rêves sont forcément sauvages et sombre,
unvaluable,
sans valeur.
It offers nothing to,
ça n'a rien à offrir à notre espèce pour faire avancer notre espèce humaine. Et donc, avoir comme moi, enfant, des parents qui me disent « Mais bien sûr, oui, tu ne connais pas encore l'alphabet, mais tiens, prends le journal, essaie de lire. » Oui, bien sûr, je vais utiliser toute ma retraite pour payer des études à l'université. Et c'est ce qu'ont fait mon père et ma mère. Et je suis allée dans une université très classe, pas du tout dans une fac pas chère. Donc j'ai littéralement vidé ses comptes de retraité. Et la seule chose que ça lui a inspiré, c'est de la joie. Parce que lui, il n'avait pas pu être mathématicien. Il n'avait pas pu être docteur. Il aurait pu s'il avait eu l'argent. C'était quelqu'un de brillant. Et on se pousse en avant, génération après génération. Et ce qu'on se dit, justement, c'est ton esprit. Ce qui a le plus de valeur en toi, en plus de l'amour, parce que l'amour aussi est un acte politique. Quand on mélange les deux choses, et qu'on a toute une famille, toute une culture, tout un quartier qui dit « mais oui, bien sûr, évidemment, oublie ce qu'ils disent sur nous. » Oui, ton esprit, c'est le paradis, et il faut que tu l'investisses. Ça a été un cadeau incroyable, le cadeau le plus incroyable qu'on m'ait jamais fait.
And so, you know,
Alors, vous savez, j'essaie de l'offrir aussi à mes lecteurs. J'en parle tout le temps. Je refuse de déconsidérer ou de mépriser mes lecteurs, mes lectrices. On n'arrête pas de faire ça. Pourquoi, comment on se permet de faire ça? Je vois ça dans des lectures tout le temps. Je pense que c'est plus honnête de penser que tous les lecteurs et les lectrices que j'ai sont des gens comme mon père, en réalité, des gens absolument brillants, mais qui n'ont peut-être pas eu les mêmes privilèges que moi. Et qui sont capables de comprendre. Si moi, je vaux quelque chose en tant qu'écrivaine, si je n'écris pas de livre, peu importe la rigueur intellectuelle, si je n'écris pas un livre qui est aussi dans une langue accessible, les métaphores, c'est ce qu'il y a de plus difficile à écrire. Mais tout le monde comprend les métaphores.
On peut dire que vous faites drôlement confiance à l'intelligence de vos lectrices et de vos lecteurs. On voulait vous proposer d'entendre une archive radiophonique de Simone Schwarz-Barth qui nous parle de la mort.
Nous marchons avec la mort dans l'ourlet de nos vêtements. La mort en Guadeloupe, aux Antilles, et je pense que pour le monde noir, bien souvent, la vie ne finit pas avec la mort. Les choses continuent. Continuent comment ? Continuent par nous, par notre façon de faire exister ceux qui sont partis avant nous, par notre façon de les porter, par notre façon aussi de les utiliser, donc de les rendre vivants, de les solliciter et de les implorer. Aussi, il ne faut jamais arrêter de parler des morts.
Peut-être aimais-je trop la compagnie des morts. Peut-être qu'en documentant leurs témoignages éclatés, décrivant comment elles en sont venues à n'être qu'un tout petit point de femme se tenant sur le côté d'une toile, ou un pied de table, ou un fragment de figure, moi-même, je me transformais en statue. Peut-être que dans mon autosatisfaction post-moderne, j'étais complètement à côté de la plaque, en croyant que le propre du sujet, c'était d'être brisé, quand ce qui est devenu le plus clair, après plusieurs millénaires de navigation, c'est que le problème n'était pas du tout qu'il leur manquait bras ou visage. Le problème, c'était le fait qu'elles n'étaient pas vivantes, qu'elles n'existaient pas, qu'elles n'étaient pas juste là, dans le tableau, te rendant ton regard.
La voix de Simone Schwarz-Barth dans une archive de 2017, Robin Cosley-Wist, et juste après, un extrait de votre livre « Odyssée de la Vénus Noire » dans les éditions Gallimard. Il est beaucoup question des morts dans ce livre-là, et Simone Schwarz-Barth dit qu'il y a dans le monde noir des êtres qui marchent avec la mort dans l'ourlet de leurs vêtements. Mais juste après, on entend aussi votre rapport tout particulier avec la mort. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une manière de considérer que le problème n'est pas tant que les corps soient morcelés, qu'ils soient éparpillés, qu'ils soient violentés, c'est qu'ils ne soient pas vivants. Et donc il y a une tension dans la manière dont vous pensez la mort dans votre texte, Robin Cosley-Wist, qui est à la fois, il faut les soigner, il faut les porter avec moi, il faut les porter avec soi, les morts, et en même temps, il faut être absolument vivant.
I'm sorry, I had such an outburst emotional.
Je suis désolée, j'ai eu vraiment un moment d'émotion. Simone Schwarz-Barth est probablement une des neuf muses que j'ai dans mon esprit. C'est peut-être la numéro une. Je me souviens de l'avoir lue à l'université, en traduction bien sûr, et d'avoir le sentiment d'avoir enfin trouvé un chez-moi, parce qu'elle m'a permis de comprendre ma propre histoire en Louisiane et ce que ça voulait dire d'être élevée par des créoles. Alors, pardonnez-moi, je n'étais pas tout à fait prête à entendre sa voix.
On aurait dû vous prévenir.
Alors, la mort. La façon dont on en parle dans la culture créole, dont j'ai été élevée et dont beaucoup de gens sont élevés partout, quand on parle de la diaspora africaine, italienne, grecque ou même française, si on remonte dans le temps, quelles que soient les diasporas, la mort n'existe pas. Nos ancêtres sont toujours avec nous, en permanence. Il n'y a même pas de débat. C'est aussi évident que l'air qu'on respire. Ce n'est pas le spectre, ce n'est pas cette idée de la mort qui n'existe pas. C'est pas une histoire de fantôme qui nous hante, c'est une histoire de réconfort. Quand je pense à ma tante Patrice qui vit à Lyon, quand je pense qu'elle est peut-être avec moi aujourd'hui, c'est quelque chose qui me rassure, qui me réconforte. Et j'ai grandi comme ça. Et quand on a des bébés, on pense qu'un autre ancêtre est revenu.
I'm sorry.
Je suis désolée.
So you talked about black world. So I just want to say that
parler de ces mondes noirs, ce que je voulais dire, c'est que pour nous, il y a des millions de mondes noirs au pluriel. Et qui sont très distincts. La seule chose qu'on a en commun, c'est que peut-être on se ressemble, mais en dehors de ça, on peut passer d'un quartier à l'autre et aux États-Unis et trouver des différences profondes entre les gens. Ce que je veux dire, et c'est lié, encore une fois, à votre question sur l'écriture, sur la lecture, dans ma vie personnelle comme dans l'histoire du colonialisme américain qui a rendu illégal le fait de lire et d'écrire pour certaines personnes, souvent, ce que j'essaye de faire, c'est de faire plaisir à mes ancêtres. Si j'arrive à leur faire plaisir, à leur donner de la joie, je me moque du reste. Parce que quand je dis que je crois à la présence permanente de nos ancêtres, c'est le cas aussi pour vos grands-pères, vos grands-oncles, vos grands-mères, et même nos ancêtres futurs, les enfants à naître, sont avec nous aujourd'hui. Alors si je fais plaisir à mes ancêtres, à vos ancêtres, si je les satisfais, je n'ai à m'inquiéter de rien. Et quand les lecteurs lisent ce texte, j'espère aussi faire plaisir, satisfaire leurs ancêtres à eux. C'est une version du temps qui est expansive et c'est une façon de dire aux lecteurs, aux lectrices que je comprends qu'eux aussi ont leur fantôme avec eux.
On écoute un de vos poèmes. Parce que quand j'étais petite, Dieu me hissait sur ses genoux. Parce que quand elle me hissait sur ses genoux, elle me faisait la lecture. Parce que l'histoire qu'elle me lisait le plus était celle que j'aimais le moins. Parce que tous les jours, elle ouvrait ce petit livre vert et disait « Voici l'histoire de ta vie ». Parce qu'entre le début et la fin, il n'y avait que 3 pages. Je crois en cette route qui est noire et s'étend aveuglément jusqu'à l'infini. Je crois que les crocodiles avalent des cailloux pour les aider à digérer les crabes. Parce que jusqu'au XXe siècle, les gens pouvaient encore mourir sous l'effet d'une sensation. Et parce que ma faim est si grande, j'ai honte de lever la tête. Parce que la mémoire, et non la gravité, nous cloue à ce tremblement. Et quand Dieu a posé les yeux sur nous la première fois, elle est devenue folle de jalousie. Parce que si la planète avait une porte de derrière, nous serions encore là, à attendre que l'air approuve notre entrée. Parce que tes yeux ont été la seule fois où les pivoines m'ont dit oui. Parce que, peu importe le nombre de fois où je suis morte, je finis toujours par me réveiller, heureuse. Et puis la nuit dernière, après lui avoir hurlé dessus pour la première fois, mon nouveau fils a rêvé que nous allions marcher à l'intérieur des arbres. Quand on a croisé un écureuil, a-t-il raconté, je lui ai donné un coup de pied. Puis l'écureuil s'est transformé en livre peu épais que nous avons lu. Parce que Dieu est devenu un petit enfant, je l'ai hissé sur mes genoux. Parce que quand je l'ai hissé sur mes genoux, pour lui faire plaisir, j'ai déboutonné mon chemisier. Parce que sa bouche est un lieu d'un rose impossible, une cathédrale à vif et béante qu'elle a ouverte, dent contre téton, puis refermée. Dans sa traduction française, ce poème s'appelle « Le corps au mois d'août » Robin Cost-Lewis, et en l'écoutant dans la voix de Mathilde Wagman, je me disais, chacun des poèmes contient presque la totalité de ce qui est développé dans ce recueil-là. À chaque fois, il y a un monde, à chaque fois, il y a tout ce qui est pensé par ailleurs. Par exemple, ce poème-là, il y a un vers qui fait peut-être directement référence au poème d'avant qui s'appelle « Le leur », qui est un poème sur un acte violent, une agression. Mais en même temps, il projette vers peut-être l'allaitement et le futur d'un tout petit bébé et l'enfantement. J'ai vraiment l'impression que chaque poème nous permettrait de tout dérouler, Robin Cost-Lewis. Oh, comme un tout, quoi. C'est moi qui deviens émue et incompréhensible.
And is there a question about it?
Est-ce que c'est une question? Non, c'est ça, j'ai conclu par « c'est moi qui deviens émue et incompréhensible ».
Oh, thank you.
Merci.
It was beautiful to listen to you read them.
C'était magnifique d'entendre lire ce poème, merci. Et ça m'a rappelé ce cadeau incroyable que m'a fait Margot Gallimard et ma traductrice, Céline Leroy, et Nicolas Elliott aussi, qui a traduit. Céline a traduit les poèmes et lui, il a traduit l'essai.
Et
les cieux ont permis d'allumer une étincelle dans l'esprit d'Elias Sambar qui a écrit une postface pour moi. Je suis une grande admiratrice de son travail, de son écriture et de son travail aussi en tant que diplomate pour le monde. Oui, j'espère que chaque poème est un petit monde dans lequel on peut entrer. Je suis heureuse d'entendre ça, d'entendre cette distinction. Ce poème-là est très spécial pour moi. Il y en a peu qui continuent encore à m'interroger, ou je continue à me demander d'où ça vient. Ricky Laurentes, le grand poète qui vient d'être finaliste, ou en tout cas longlisté pour le National Book Award, a écrit à plusieurs amis poètes en leur demandant d'écrire sur le corps. Est-ce que vous voulez bien écrire un texte sur le corps? Je l'ai écrit au mois d'août et j'adore les noms, tous les sens en fait que peut avoir justement ce mois, le nom de ce mois en anglais, auguste. Qui est le mois d'août. Je crois qu'on part du corps toujours et qu'on revient au corps, que ce soit en tant qu'artiste ou en tant qu'intellectuel.
Vous avez vu hier Alice Diop sur scène porter vos mots en français dans la traduction de Nicolas Elliott à la MC 93 de Bobigny. Et Alice Diop dit qu'elle a eu un coup de foudre pour votre texte, mais que c'est aussi un texte qui, entre autres puissances, a une puissance réparatrice, une très grande puissance de soin. Est-ce que l'écrire a eu le même effet pour vous, Robin Cost-Lewis?
J'étais dans le public hier et j'ai été profondément émue. Je me suis demandé aussi si ce serait possible de produire un spectacle de ce genre aux États-Unis. Anna Deva-Smith a fait quelque chose comme ça une fois, mais ça n'a pas été cette fois-ci simplement un texte très chargé sur l'art, sur la beauté, ça allait au-delà de ça. J'ai été vraiment très émue par Paris, par le Festival d'automne, par Francesca Corona qui a monté cette production qui vraiment prend l'esprit d'une femme noire qui réfléchit à la représentation, à la beauté, aux blessures psychiques qu'il faut réintégrer. Encore une fois, on part dans la psychanalyse. En fait, j'ai trouvé ça incroyable qu'on puisse être face à ça, qu'on soit dans le silence le plus total pendant une heure à écouter quelque chose qui n'est pas joué. Elle est simplement, en fait, elle est assise là et elle lit. Et ça dit énormément de choses sur ce public et sur la performance incroyable d'Alice. Ce que ça m'a fait d'assister à ça, c'était ça votre question, je crois. Je crois que je suis tellement embarquée par cette interview. J'ai oublié votre question.
Non, c'était savoir si vous aussi, ça vous avait prodigué le soin dont parle Alice d'écrire ce texte, mais vous n'avez qu'une seconde pour dire « yes or no », donc c'est vraiment trop petit.
Oh, I'm sorry.
Désolée.
Yes. I mean, healing as in the sense it was validating.
Oui, Ça a été effectivement quelque chose de réparateur parce que c'était une forme de validation. Quand on se promène justement hanté par ces blessures psychiques parce qu'on vous a répété que vous n'étiez qu'un singe et que vos ancêtres étaient des sauvages avant d'être sauvés et ramenés dans ce pays sacré où on leur a offert la christianité, oui, effectivement, ça a été réparateur de faire ça.
Merci infiniment, Robin Cost-Lewis, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de Odyssée de la Vénus Noire et autres poèmes parus aux éditions Gallimard. Alice Diop lit ce texte à la MC 93 de Bobigny jusqu'au 30 novembre. Merci beaucoup à Cynthia, notre auditrice, qui vous posait une question sur la forme. On ne l'a pas passée, mais je crois que vous lui avez répondu. Au son, c'était Éric Perruchot-Triboulet à la réalisation. Vivien Demeyer, un immense merci à toute l'équipe du Book Club.